Bonjour et bienvenue sur le podcast Inspire Expire. Je suis Gabrielle, professeure de yoga, et je t'accueille ici pour explorer le yoga sous toutes ses facettes, mais aussi pour parler bien-être et santé mentale au quotidien. On est en septembre 2023 et c'est la rentrée. C'est souvent à ce moment-là qu'on a de l'élan pour commencer de nouvelles choses, par exemple se lancer dans la pratique du yoga, ou parfois envie de changer de cours. J'avais envie de faire un épisode qui puisse aider à mieux comprendre les différentes facettes du yoga, justement, particulièrement différents yogas posturaux qui pourraient vous intéresser pour pratiquer cette année. Donc on va explorer ces différents styles de yoga. Et cet épisode du jour, je vous invite à l'écouter en lien avec l'épisode numéro 14 que j'avais fait sur les différents formats de cours, présentiels, en ligne, collectifs ou particuliers, etc. Donc comme je vous le disais, on va surtout explorer différents styles de yoga posturaux parce que la plupart d'entre eux se distinguent les uns des autres par la façon dont ils abordent et enseignent les postures. Mais j'en profite pour rappeler que le yoga est une discipline qui regroupe de nombreuses pratiques. Les postures donc, mais aussi la respiration, les pratiques de concentration, qu'on appelle souvent méditation, mais qui sont en fait cette concentration qui nous aide à mener le mental dans un état méditatif, les mudras, que ce soit les mudras des mains ou du corps, les mantras, les chants dévotionnels que sont les bhakti et les kirtans, les lectures également. On y reviendra un jour sur cette notion de lecture comme un acte yogique. S'il ne faut pas réduire le yoga aux asanas, aux postures, cette pratique du mouvement, elle a néanmoins toute sa place dans un monde sédentaire où le mental tient une place énorme. Et donc ça fait du bien de retrouver du mouvement, de bouger, et donc de redonner de la place, de l'espace à son corps, de manière à rééquilibrer l'ensemble corps-esprit et ainsi pouvoir mieux se centrer et mieux recentrer le mental, comme c'est l'un des buts du yoga. Plongeons ensemble à la découverte de ces différents styles de yoga. On va commencer tout de go avec une petite difficulté linguistique. Je vais vous parler de Hatha Yoga. C'est bien sûr un mot comme yoga qui vient du sanskrit. Et Hatha Yoga désigne l'ensemble des yogas posturaux. Vraiment l'ensemble, le groupe de yoga qu'on va voir aujourd'hui. Mais cette même expression, Hatha Yoga, désigne aussi un de ces styles, une forme spécifique de yoga postural. Donc on a le grand Hatha Yoga qui rassemble tous les yogas qu'on va voir aujourd'hui, le Hatha, mais aussi le Vinyasa, l'Ashtanga, etc. Et il y a le plus petit, entre guillemets, Hatha Yoga, qui est un de ces styles de yoga. Par des représentations picturales, par des livres, on a des preuves de pratiques physiques qui impliquent le corps depuis très longtemps, depuis des siècles dans le yoga. Mais ce qui va vraiment donner un élan à la pratique posturale, c'est un texte, la Hatha Yoga Pradipika, qui est un texte du 15e siècle et qui va codifier certaines postures de yoga et qui sont encore celles que l'on connaît aujourd'hui en partie. Hatha Yoga, ça signifie le yoga de l'effort. Et je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas le yoga du bien-être. C'est même pas le yoga de la souplesse. C'est l'idée de faire un effort. Donc c'est important à se souvenir pour cette exploration des styles de yoga. Puisque l'idée, en fait, c'est de faire un effort dans le corps, non pas pour la performance, mais avant tout pour le grand but du yoga, aider à recentrer le mental, à le concentrer, de manière à ce que petit à petit, il arrive à ne penser plus qu'à une seule chose, et jusque, pour les grands ascètes, réussir à ne plus penser à rien du tout. Avec cette notion d'effort, on a vraiment cette notion de concentration sur le tapis grâce à des postures physiques qui vont du coup aider à recentrer le mental. Et donc les postures physiques n'ont pas seulement pour but d'aider à bien s'asseoir, elles ont aussi pour but de déjà commencer la concentration qui mènera à l'état de méditation. Le fait aussi de pouvoir en fait faire de l'effort sur un tapis ou sur un temps donné, dans une pratique spirituelle et du coup aussi physique, c'est de pouvoir aussi aider à recentrer le mental en lui montrant « je peux faire des choses qui sont difficiles » et du coup d'éviter ces moments où le mental va chercher à partir ou va se persuader qu'il ne peut pas faire ceci ou cela et donc va perdre une grande dose d'énergie dans des élucubrations Et donc, ça nous aide à pouvoir, en fait, affronter la vie, puisque la vie n'est pas faite que de choses faciles. Et donc, il y a vraiment cette idée, je trouve, que ce yoga de l'effort aide aussi à vivre le quotidien. Pour revenir sur cette idée que l'effort, c'est pas de la performance, cet effort, il est pas forcément dans des postures alambiquées, ou un équilibre sur les bras, ou sur la tête. Hein. C'est pas parce qu'on dit effort qu'on doit penser spectaculaire. Une posture, on va dire classique, un guerrier 2 peut être tout à fait une posture d'effort en fonction du temps pendant laquelle on tient cette posture, en fonction aussi de notre morphologie, en fonction de notre pratique de yoga. Ça peut être une posture qui nous demande de l'effort, soit être tenu, soit juste être dedans, soit aller justement de cette posture à une autre. Donc cette notion d'effort, elle doit pas nous amener à tomber dans un yoga justement où la physicalité devient prépondérante. C'est vraiment cette notion d'effort qui nous aide à pouvoir recentrer encore une fois le mental. Il y a aussi une définition plus poétique, plus symbolique du mot hatha, qui est l'idée que le ha signifie soleil et le tha signifie lune. Et donc c'est l'idée en fait que le hatha yoga, donc le yoga qui du coup met l'accent sur les postures, sans oublier les autres pratiques bien sûr, ce yoga nous aide à amener l'équilibre entre les deux forces, les forces solaires et les forces lunaires qui existent en nous selon le yoga. C'est vraiment l'idée qu'en fait, les postures, et associées aussi à la respiration, à la méditation, etc., va nous permettre de rééquilibrer l'énergie solaire, l'énergie lunaire en nous, et de la rééquilibrer de manière à ce qu'elle soit tellement équilibrée qu'elle soit centrée. Maintenant qu'on a posé les bases du Hatha Yoga, nous allons nous lancer dans l'exploration de différents styles de yoga. J'ai choisi des styles qui sont ceux que vous êtes le plus probable de croiser, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et c'est pas impossible que je refasse un épisode avec d'autres styles de yoga que je n'aurais pas fait aujourd'hui. Et du coup, je vais vous expliquer un peu à chaque fois pour chaque style de yoga, faire un petit point sur son origine et vous expliquer comment se caractérise ce yoga, comment il se définit. Et du coup, à peu près, pour vous donner un peu une idée de ce que vous pouvez trouver dans un cours de ce style de yoga. Et on va commencer par le fameux Hatha Yoga. Donc cette fois, on n'est plus sur l'ensemble des styles posturaux, on est sur le cours de Hatha Yoga en lui-même. Donc c'est un style populaire en France qu'on retrouve pas mal, parce que c'est le premier style de yoga qui est arrivé en France, qui ça fait à peu près 30 ou 40 ans qu'il est arrivé. Donc il a été importé en Europe et en France par Sri Mahesh. Et dans les pays francophones, donc France et Belgique notamment, il y a deux autres grandes figures qui l'ont diffusé, c'est Eva Rouchepol et André Van Lisbeth. Donc comme je vous le disais, les différents styles de yoga, il y a des pratiques aussi de respiration et de méditation, mais je me concentre sur les postures parce que c'est là où se pose la différence principale entre les différents styles de yoga. Le Hatha Yoga se caractérise avant tout par une tenue assez longue des postures, à peu près entre 5 à 12 respirations. Ces postures n'ont pas toujours de transition entre elles, c'est ça aussi une autre différence par rapport à d'autres styles de yoga. Donc on peut passer d'une posture à l'autre sans chercher à les lier, sans chercher à faire quelque chose de logique sur le plan physique, anatomique. D'ailleurs, parfois, certaines postures sont séparées les unes des autres par des shavasanas, c'est-à-dire qu'on fait la posture, même une posture debout, on retourne, on la fait des deux côtés du corps si elle est asymétrique, on retourne ensuite en shavasana au sol pour intégrer la posture, et ensuite on se replace dans une autre posture. C'est donc un yoga plutôt statique. Alors, le Hatha Yoga est souvent qualifié de doux, c'est souvent l'adjectif qui revient le plus pour essayer de définir ce yoga. Et j'aimerais souligner que ce n'est pas toujours le cas, que ça peut être un yoga exigeant, physiquement. En fonction des postures que vous tenez, cela peut être plus ou moins intense. Passer 12 respirations dans Balasana, la posture de l'enfant, posture dans laquelle vous avez pu en plus avoir une petite adaptation, du coup vous êtes vraiment au top, les 12 respirations elles vont passer très très vite. Vous faites ces mêmes 12 respirations dans Vasishtasana, qui est la planche sur le côté, où vous tenez sur une main, sur les pieds et tout le reste du corps est bien tendu, bien gainé, un bras vers le haut, etc. Ça sera pas le même ressenti. Du coup, c'est pour cela que j'insiste beaucoup plus sur la différenciation entre yoga statique et yoga dynamique. Parce que les yogas posturaux ont vraiment tendance à se différencier par le fait de plus ou moins bouger dans le cours et pas tant par leur intensité. Ensuite, un autre style de yoga que vous pourrez retrouver, c'est l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Là, on est sur un yoga beaucoup plus dynamique. Il s'agit d'un ensemble de séries qui ont été créées par Patabi Joyce, qui est un disciple de Krishnamacharya. Donc là, on va faire un petit point historique. Suite à la colonisation de l'Inde par l'Empire britannique, les dirigeants de l'Empire britannique ont cherché à effacer certaines pratiques, dont le yoga. Et du coup, le yoga a dû parfois être caché pour pouvoir être pratiqué, pour pouvoir surtout être sauvegardé, que les pratiques puissent continuer à vivre, pour que les gens qui avaient choisi cette voie puissent continuer à explorer cette voie. Et au début du XXe siècle, il y a Krishnamacharya qui va faire revivre le yoga d'une certaine manière. En fait, il va le faire revivre en l'associant à des éléments de l'Occident qui viennent notamment de la gym, de la gymnastique suédoise et même du bodybuilding. Et c'est pour ça qu'il va y avoir en fait un élan très fort aussi au XXe siècle de la pratique posturale qui va prendre finalement le dessus sur d'autres pratiques, sachant que plusieurs millénaires en arrière, c'était les pratiques mentales qui étaient celles qui étaient les plus pratiquées. Donc Krishnamacharya, il fait ça dans le but de sauvegarder de le yoga pour pouvoir continuer à le transmettre en passant davantage par le corps, en utilisant le corps comme un moyen de contrôler le mental. Donc il a eu des élèves, dont Patabi Joyce, qui a créé un ensemble de séries de postures de yoga et qui s'appelle l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Dans ses cours, le but est de suivre les séries. Et donc de faire la série 1, par exemple, on commence forcément par la série 1, et on fait les postures. Et à partir du moment où on arrive à une posture qui nous pose difficulté, vraiment dans laquelle on a du mal à être ou à entrer, eh ben on arrête la série et on cherche en fait à maîtriser, on va dire, cette posture pour pouvoir passer à la posture suivante et ainsi de suite jusqu'à maîtriser toute la série 1 et passer ensuite à la série 2. Et ainsi de suite. Donc c'est un yoga pour le coup qui là a beaucoup d'exigences physiques. D'une part parce que les postures s'enchaînent rapidement, mais aussi parce qu'il y a vraiment cette idée de il faut rentrer dans la posture. C'est un yoga que je connais très peu et je serais très intéressée pour savoir s'il y a des cours maintenant qui sont plus souples sur ça, s'il y a des cours qui prennent en compte les différentes morphologies et donc peut-être l'incapacité de certains corps à rentrer dans certaines postures, et est-ce que ça, du coup, ça amène une forme de changement, de modification des séries ou non. Mais du coup, ça en reste pour l'instant un yoga très rigoureux. C'est aussi un yoga où, par exemple, on va trouver, encore une fois, du pranayama, donc la respiration, ou de la méditation, et généralement aussi des chants de mantra pour ouvrir et pour fermer la séance, dont notamment des dédications, formes de dévotion à Patanjali, donc l'auteur des Yoga Sutras, donc un livre de philosophie sur lequel l'Ashtanga Vinyasa Yoga se pose beaucoup. Et d'ailleurs, Ashtanga, ce mot est issu du livre de Patanjali. Donc Ashtanga, ça signifie 8 membres, Ashta, 8, Anga, membre ou pilier, le sanskrit ayant un mot pour désigner toute une symphonie, je dirais, de définition. Et du coup, si vous voulez en savoir plus sur ces 8 piliers, j'en avais parlé dans l'épisode 6 du podcast, et ce qui vous permettra de comprendre un peu la philosophie de Patanjali, et de faire aussi cette différence entre d'un côté Ashtanga Vinyasa Yoga, qui s'appelle parfois Ashtanga Yoga, à ne pas confondre avec l'Ashtanga Yoga de Patanjali, qui signifie les 8 membres du yoga, et qui est pour lui les 8 étapes à suivre pour aller jusqu'à l'illumination. Et donc, vous l'avez compris, on est clairement sur un type de yoga dynamique, voire très dynamique, avec l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Et en parlant de Vinyasa, on va bien sûr arriver sur le Vinyasa Yoga, donc qui est issu de l'Ashtanga et qui tient aussi ses racines plus directement dans les enseignements de Krishnamacharya qui enseignait des Vinyasa Krama Yoga. Donc c'est un yoga dynamique et qui se différencie de l'Ashtanga par sa créativité. Là où l'Ashtanga Yoga est vraiment un ensemble de séries codifiées, le Vinyasa Yoga, on peut faire les suites de postures qui nous plaisent, comme on le souhaite en fait. Donc il y a vraiment beaucoup plus de créativité. Par rapport au Hatha Yoga, le Vinyasa est un yoga qui est dynamique, donc qui bouge bien plus. Souvent, sur un cours d'une heure, dans un cours de Vinyasa Yoga, on va faire beaucoup plus de postures que dans un cours de Hatha, parce que dans le cours de Vinyasa, on les tient moins longtemps. On les tient généralement environ 3 respirations, et parfois, quand on est dans un flow, qu'on a travaillé les postures et qu'on cherche à vraiment les enchaîner les unes aux autres, bah on va rester peut-être une respiration, voire une seule inspire ou une seule expire dans la posture. Et c'est cette répétition du mouvement, plus ou moins rapide, qui amène aussi un état méditatif. Puisqu'encore une fois, dans les différents styles de yoga, les postures ont avant tout le devoir, j'ai envie de dire, de nous emmener à un état méditatif, d'aider à recentrer le mental. Et du coup, cette créativité qui existe dans le Vinyasa Yoga, elle amène aussi beaucoup de variations qui peut être selon les professeurs. On en reparlera un peu plus tard. Vinyasa, ça signifie placer de manière spécifique. Nyasa, c'est placer et vi de manière spécifique. On est encore une fois dans la grande richesse du sanskrit où le plus petit mot signifie la plus grande expression. Il y a différentes interprétations de cette phrase qui en soi n'est pas forcément extrêmement claire, placer de manière spécifique. Et ce qu'on retient le plus souvent, c'est cette idée que ce qu'on place de manière spécifique, c'est on place le mouvement sur la respiration. C'est-à-dire que le rythme de notre respiration va donner le rythme de nos mouvements. Et plus on allonge la respiration, plus on va allonger le mouvement. Et on sait qu'une respiration longue, un mouvement long et maîtrisé, vont aider aussi à avoir un mental plus posé, plus maîtrisé. Le Vinyasa est souvent désigné comme une pratique intense, et là je ferai la même remarque mais en inversé par rapport au Hatha Yoga. Ça dépend. Ça dépend des postures, ça dépend de la façon dont on fait les transitions entre les postures. Puisque le Vinyasa Yoga se définit aussi par la façon dont les postures s'enchaînent. Contrairement au Hatha où je vous disais que l'enchaînement n'a pas vraiment de place. En Vinyasa, on essaie même de rester dans la concentration, même quand on change les postures d'une posture à l'autre. Et donc tout ça, en fait, tous ces facteurs, bah, ils peuvent varier. On peut faire un Vinyasa uniquement au sol, par exemple. Et du coup, avoir finalement un Vinyasa particulièrement doux. Donc encore une fois, c'est plus une question de dynamisme ou de statique plutôt que seulement d'intensité ou de douceur. Et nous passons maintenant au yoga Iyengar. Donc c'est un yoga qui a été créé par BKS Iyengar, qui était également un élève de Krishnamacharya. C'était aussi son beau-frère. Et BKS Iyengar avait des problèmes de santé qui faisaient qu'au début, son beau-frère avait refusé de lui enseigner le yoga. Il a finalement accepté. Et Iyengar, en fait, avec sa propre expérience, il a défini en fait un ensemble de façons de faire du yoga pour réaligner son corps et lui redonner de la santé. Donc c'est un yoga qui se caractérise par une très très grande rigueur puisqu'il se focalise énormément sur l'alignement du corps et sur son réalignement pour lui redonner en fait à la fois de la force et de la souplesse. Et donc c'est aussi un yoga qui utilise beaucoup d'accessoires pour justement arriver à cet alignement. Donc il y a beaucoup d'utilisation des briques, de sangles, notamment des sangles au mur. Donc quand on va faire un cours d'Iyengar, généralement on est dans une salle adaptée pour cela. Il y a aussi des chaises et il peut aussi y avoir du matériel spécifique. Et on est dans un yoga plutôt statique, généralement les postures sont tenues assez longtemps pour vraiment comme s'imprimer dans le corps et aider à les ressentir et faire en sorte qu'elles aient un effet sur le corps. Ensuite, on va passer au vilain petit canard de cette série, mais que j'avais quand même envie de placer. C'est le yoga nidra. Pourquoi c'est le vilain petit canard? Parce que Nidra, en sanskrit, signifie sommeil. C'est le yoga du sommeil. C'est le yoga où il va n'y avoir qu'une seule posture. Donc c'est un yoga qui a été développé notamment par Swami Satyananda Saraswati et qui consiste donc à être en shavasana au sol, dans l'immobilité la plus totale possible, et il s'agit avant tout d'une pratique mentale. Il s'agit d'être en shavasana et de suivre la voix du guide, de la professeure, et de prendre conscience du corps par des exercices qu'on appelle des rotations de conscience, de prendre conscience du souffle et parfois de prendre le contrôle du souffle pour lui faire faire certains pranayamas en étant allongé. Et généralement, ça se conclut aussi par une forme d'exploration mentale sous forme de visualisation ou de méditation. Donc on est vraiment sur un yoga beaucoup plus mental qui peut-être, j'insiste sur le peut-être parce qu'on n'a aucune preuve, se rapproche plus de ce qui pouvait se faire avant l'explosion des différents styles de yoga posturaux. Donc je souhaitais l'inclure parce que déjà je l'enseigne notamment cette année, mais aussi parce que même s'il y a finalement très peu de postures, c'est un type de yoga qui est assez populaire, il se développe pas mal et vous le retrouvez généralement déjà sur internet mais aussi dans des cours en présentiel en fonction de votre lieu de vie. Et ça peut aussi être un yoga qui peut être très intéressant pour vous, si soit vous voulez équilibrer une pratique posturale avec quelque chose de moins postural, soit parce que les postures ne vous intéressent pas et que vous voulez vraiment être dans la pratique mentale. Et c'est un yoga, pour le coup, qui est hyper statique, c'est le plus statique des yogas posturaux, puisque le but est vraiment de ne plus bouger le corps et de juste être en concentration mentale. Dernier yoga postural qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pareil, c'est un yoga un peu à part, puisque c'est le yin yoga, et que ce yoga, il est issu du taoïsme, donc c'est la rencontre en fait de la culture yogique avec le taoïsme, donc qui est un principe philosophique chinois. Donc c'est vraiment une notion, une philosophie, on retrouve aussi des éléments de médecine chinoise qu'on ne retrouve pas dans les autres types de yoga. Voilà, donc c'est vraiment ce qui fait la particularité du yin yoga. Et c'est un yoga où les postures se font soit allongées, soit en posture assise. Et c'est des postures que l'on fait pendant très longtemps. On les tient, on dit souvent entre 3 et 20 minutes. Bon, j'ai rarement, à part Shavasana, fait 20 minutes de posture. Mais voilà, on dit qu'on peut tenir aussi jusqu'à 20 minutes dans toutes les postures de yin yoga. Et ces postures, assises ou au sol, sont souvent soutenues par des accessoires, notamment des accessoires assez doux comme le bolster ou alors des briques. Parce que le but, c'est de ne pas tenir la posture, on va dire, comme on le fait dans un cours de hatha ou même de vinyasa, puisqu'on va chercher, au contraire, à se relâcher complètement dans la posture. On va vraiment rechercher à être dans un relâchement musculaire profond, qui va venir même étirer des parties du corps, on va dire, qui d'habitude ne s'étirent pas comme ça, qui sont les fascias, qui sont ces enveloppes qui viennent justement envelopper les muscles et qui ne peuvent s'étirer que quand les muscles sont réellement profondément relâchés. Ces étirements sont aussi dits pouvoir agir sur les méridiens, donc les méridiens qui sont ces courants d'énergie dans le corps et donc qui sont issus de la médecine chinoise. Et donc, encore une fois, on est sur un yoga vraiment plutôt statique. Voilà pour la présentation de ces différents styles de yoga posturaux. Je vais revenir sur cette notion sur laquelle j'ai pas arrêté de revenir tout au long de cet épisode, sur la notion dans laquelle je vous invite à moins penser le yoga en termes d'intensité ou de douceur, mais plutôt en termes de les pratiques statiques et les pratiques dynamiques. Pour vous redonner une idée, voici le spectre avec les styles de yoga qu'on a exploré aujourd'hui, de ce qu'est ce spectre de dynamique à statique. Et je le fais dans ce sens-là pour honorer le yoga, puisque le yoga est avant tout une pratique qui cherche à nous amener vers l'immobilité, immobilité du corps, quasi-immobilité de la respiration, pour amener une immobilité du mental. Le plus dynamique, alors là, il y a un peu concurrence entre l'Ashtanga Vinyasa et le Vinyasa. Ça va dépendre. Certains Vinyasa peuvent être plus dynamiques que l'Ashtanga. Voilà, si on est vraiment sur du flow. Donc ça peut être vraiment plus dynamique que l'Ashtanga, où certaines postures sont tenues quelques respirations, et où il y a vraiment cette rigueur, en fait, de passer d'une posture à l'autre. Donc on pourrait dire qu'il y a Vinyasa, Ashtanga. Ensuite, je mettrais le Hatha, donc qui est beaucoup plus statique, avec la longue tenue des postures. L'Iyengar, qui, je pense, est encore plus statique, pour être vraiment dans l'appréciation des postures et vraiment avoir le temps en fait d'avoir les indications pour aligner le corps, puisque le focus est sur l'alignement dans ce yoga. On arrive de plus en plus vers encore plus d'immobilité avec le yin yoga, avec ces postures où on se relâche et on y est vraiment plusieurs minutes, on parle plus de respiration, là on parle de minutes. Et enfin, zi static yoga, le yoga nidra, où là vraiment allongé au sol, et c'est le mental qui est en action, encore une fois en action, de manière à peu aussi se centrer et se poser. Comme je vous le disais, une pratique peut être statique et intense en même temps. C'est pas forcément opposé. Donc je vous ai donné l'exemple du hatha avec Balasana et Vashisthasana, mais ça peut aussi être par exemple pour le yoga nidra. Bien sûr, ça va pas être intense pour le corps, ceci dit, c'est pas toujours évident de tenir allongé sur le sol, et n'hésitez pas à utiliser des supports si vous faites du nidra. Mais ça peut être aussi tout simplement intense pour le mental, parce que on va être confronté à notre mental, à notre vie intérieure, et parfois ça peut faire remonter des angoisses, le fait d'être allongé au sol, vulnérable, et parfois le mental aura envie de partir de la posture, de la pratique, et parfois on a du mal à lâcher prise aussi, et donc ça peut être dur en fait comme pratique. C'est pas parce que c'est immobile que c'est facile. Et donc vraiment, en fonction de notre personnalité, un yoga nidra peut se révéler plus intense qu'un vinyasa yoga. Et en fonction de comment on sent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un point de bascule, je dirais. Si on est juste dans l'inconfort, on peut rester. Et cette notion d'inconfort, elle fait écho à la notion de yoga de l'effort dont on parlait. Et c'est important de pouvoir en fait peut-être rester dans ce yoga nidra, pour continuer sur cet exemple-là, et de voir qu'à un moment donné, on arrive à dépasser cet inconfort mental et à pouvoir être plus à l'aise dans la pratique. Un dernier point sur cette notion de yoga de l'effort, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça veut pas dire yoga de la relaxation non plus, c'est pas yoga totalement de l'apaisement. Avec cette notion d'effort, il y a vraiment aussi la notion de ne pas fuir l'inconfort et chercher à aller au-delà de ce que peut imposer le mental, à chercher à explorer les inconforts, les tensions dans le corps et ne pas juste chercher à tout relâcher ou à juste se concentrer sur ce qui est bien ou agréable. Explorer tout en profondeur. Mais je vais le dire parce que je le répète toujours à mes élèves et parce que je trouve que c'est très important. Inconfort ne signifie pas douleur ou souffrance. Si vous êtes à un moment donné dans la douleur ou la souffrance, que ce soit sur le plan mental ou physique, là, par contre, c'est plus de l'effort, c'est vraiment la souffrance. Donc ça, c'est pas du tout le but du yoga, qui au contraire a pour but d'amener une libération de la souffrance. Donc dans ce cas, arrêtez la pratique, prenez une pause, voilà, vous êtes toujours libre de sortir de la pratique, voire de sortir du cours, si vous en avez le besoin. Ne vous dites pas la prochaine fois que vous avez une douleur intense dans le quadriceps, ah non mais c'est yoga de l'effort, hein, c'est yoga de l'effort, il faut... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous. Voilà, je vous ai proposé ce spectre dynamique, statique, parce que je trouve que c'est un point finalement plus intéressant que de penser en intensité, douceur, pour réussir à déterminer ce qui nous convient le mieux pour un cours de yoga. Est-ce que moi j'ai besoin de bouger mon corps avant de me poser? Est-ce que le fait de bouger mon corps est déjà en soi un élément méditatif très efficace pour moi? Ou est-ce que au contraire je sais que j'ai besoin de lenteur, voire d'immobilité complète pour me poser? Est-ce que j'ai besoin des deux? Est-ce que le mardi soir je fais du vinyasa flow, qui est vraiment un enchaînement de postures, et le jeudi soir c'est yoga nidra par exemple? Quand je vous ai présenté ces styles de yoga, mon but c'était pas de vous dire, voilà, si vous êtes comme ça, c'est ce style de yoga qu'il vous faut, si vous êtes... Parce que ça dépend de vous, et c'est vous qui savez. C'est vous qui avez le pouvoir de savoir. Il n'y a pas un cours de yoga idéal pour tout le monde, ou pour des personnalités similaires, et il n'y a pas de cours de yoga idéal pour une même personne tout au long de sa vie. Trouver votre cours idéal, ça va être prendre en compte différents facteurs. Les facteurs de quoi j'ai envie, d'un côté, et de l'autre côté, de qu'est-ce qui m'est accessible, là où je suis. Ça va prendre en compte le format du cours que vous préférez. Est-ce que je préfère présentiel ou en ligne? Est-ce que je préfère des cours collectifs ou particuliers? Est-ce que du coup j'ai besoin plutôt de dynamisme ou de statique ou d'un mélange des deux? Et puis si on veut faire en présentiel, il faut voir autour de chez soi qu'est-ce qui est proposé. Et c'est important aussi de voir comment se passe le contact avec la professeure. Ici, je dis la professeure parce que la profession est majoritairement féminine, donc je choisis de féminiser à la majorité des professeurs, mais ça inclut également les professeurs masculins et les professeurs non-binaires. Donc le contact avec la prof est important et c'est à vous aussi de déterminer comment vous vous sentez parce que la relation avec votre professeur, c'est comme dans tout cours. C'est une base quand même nécessaire pour pouvoir avancer, explorer, progresser, vous sentir bien et avoir envie de continuer la pratique. Et enfin, j'ai envie de dire, c'est à vous de définir la priorité de vos critères. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Faire tel style de yoga ou un cours en présentiel ? Faire du statique ou le contact avec cette prof qui est plus dans le dynamique, etc., etc. Pour définir son cours de yoga idéal, encore une fois, c'est vraiment vous. L'important, c'est d'avoir ces notions de critères. Format du cours, statique, dynamique, qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi, etc. De faire le point sur ces différents critères et ensuite de voir ce qui vous convient le mieux. J'aimerais souligner aussi avec cette notion de professeur, c'est que pour un même style de yoga, vous aurez quand même des enseignements différents. Déjà parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes écoles de yoga, mais aussi parce que même si vous avez deux profs qui sortent de la même école, des mêmes études au même moment, et bien ces personnes auront deux façons différentes d'enseigner. Donc ça sera jamais exactement le même vinyasa ou le même hatha yoga d'une prof à l'autre. C'est ce qui fait aussi toute la variété de la pratique. Comme je vous le disais, je me suis concentrée sur les 6 styles de yoga que je vous ai présentés aujourd'hui. Mais il en existe d'autres, peut-être même juste à côté de chez vous. Kundalini, Vini Yoga, Anusara, Power Yoga, etc. C'est peut-être des styles que j'explorerai dans un prochain épisode. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère que ça vous a aidé à mieux connaître les styles de yoga les plus connus en France actuellement. Et j'espère que ça vous a donné quelques indices et indications pour vous aider à choisir le cours de yoga idéal pour vous. Et enfin, j'espère que ça vous a donné une nouvelle façon de voir les cours de yoga, non plus en termes juste de qu'est-ce qui est doux et donc ennuyant et qu'est-ce qui est intense et donc performant, et donc de plutôt passer à juste qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui bouge pas. Je serais ravie d'échanger avec vous, comme d'habitude, sur cet épisode, sur ce que vous en avez pensé, de recevoir vos questions si vous en avez. N'hésitez pas aussi à me communiquer des styles de yoga que vous voudriez que j'explore et que je n'ai pas fait aujourd'hui. Donc pour me contacter, vous avez tout dans les notes de l'épisode, vous avez mon mail et vous avez mon Instagram. Le podcast se développe et vit grâce à vous, grâce au bouche à oreille, quand vous le recommandez à vos amis, à vos élèves, aux profs, etc. Et il se nourrit également de vos commentaires. Merci beaucoup, j'ai vu un commentaire très récent d'août qui m'a fait très chaud au cœur. Vos commentaires sont toujours adorables et c'est un vrai régal de les lire. C'est une vraie source de motivation aussi pour continuer le podcast. Et je suis très très contente de revenir dans vos oreilles. Si vous voulez continuer à développer une pratique de yoga pour prendre soin de vous au quotidien, pour explorer ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur, dans votre mental, je propose des cours en ligne, j'ai un programme en ligne autour des éléments du yoga. Et vous retrouverez tout ça de nouveau dans les notes, où vous aurez les liens directs. C'est tout pour moi aujourd'hui. Alors, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin des autres, et de prendre bien soin du monde. À bientôt !